Bonjour Claire.
Faites dans les prix littéraires, vous aussi.
Oui, on va remonter à la source de ce qu'il faudrait appeler le prix des Goncourt, plutôt que le prix Goncourt.
Alors, le prix Goncourt 2015 a été décerné au premier tour de scrutin par 6 voix au roman de Mathias Hénard, Boussole.
Les frères Goncourt, une académie, un journal, une marque. Dès 1887, Edmond, le survivant des deux frères Goncourt, avait commencé la publication du journal qu'il avait tenu à partir du 2 décembre 1851, avec son cadet Jules. La série s'était peu vendue, mais si peignée et lissée qu'elle fut, avait fait beaucoup jaser. Demeurèrent au placard, jusqu'au milieu des années 1950, les 11 cahiers de la version intégrale qui constituait une œuvre autre et qui passait pour explosive. Edmond en avait confié le soin à sa créature testamentaire, la Société littéraire, dont Jules et lui avaient longtemps rêvé et qui distribua dès 1903 le prix Goncourt, il faudrait dire, j'insiste, le prix des Goncourt. Bien des romans signés Goncourt ne sont plus beaucoup lus, mais plusieurs ont échappé à l'oubli. La responsabilité en incombe à leur qualité et tout autant à la réputation de la signature Goncourt. Celle-ci repose sur l'activité de l'académie, mais aussi sur la curiosité que ne cesse de susciter le journal. En réalité, les Goncourt sont devenus une marque dont on sait qu'elle écrit malin. C'est aussi un style de vie dans l'isolement d'une société choisie. Or, notre époque privilégie les marques et les individualités. C'est pourquoi ces réactionnaires patentés, orphelins inconsolables de l'ancien régime, sont furieusement modernes.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Louis Cabanès, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a l'Académie Goncourt et puis il y a une Société des Amis des Frères Goncourt, plus jeune, dont vous êtes l'un des animateurs. Il y a eu une édition à partir du milieu des années 1950 du journal intégral, les 11 cahiers dont je parlais. Et vous, vous pilotez avec une petite équipe d'Aix de Nanterre, notamment, une nouvelle édition. 11 cahiers qui vont faire 10 volumes. Et alors, vous vous réunissez, c'est un gueuloir, comme chez Flaubert.
C'est tout à fait ça. La seule manière d'annoter ce journal, c'est de le lire à haute voix, et on en perçoit l'originalité, on en perçoit tous les travail sur le vocabulaire, et toutes les difficultés qu'il y a parfois à l'interpréter.
On en est au 4e volume, et c'est chez Honoré Champion. Alors, il faudrait parler de la famille, de ses origines, Lorraine, de Nancy, de Jean d'Eure, c'est un très joli nom de village, du village de Goncourt, un bout de la Lorraine qui est passé en Haute-Marne. Il faudrait dire que la mère de Jules et d'Edmond est morte à 50 ans et qu'elle les a confiés l'un à l'autre. Au fond, ils étaient comme deux femmes qui vivraient ensemble, dont les santé se mêleraient et dont les règles viendraient en même temps. Et dont les rêves seraient communs. Il peut y avoir des rêves communs.
Il peut y avoir des rêves communs, mais il peut y avoir d'étranges écritures de rêves. Car lorsqu'on regarde le manuscrit, on s'aperçoit qu'il y a un rêve qui est écrit d'abord par Edmond et ensuite par Jules, si bien qu'on ne sait pas quel est le rêveur des deux. On ne sait pas si c'est Jules qui rêve ou si c'est Edmond, parce que leur écriture finit par se mêler totalement et que leur énonciation elle-même se mêle. L'un dit « je », mais parfois il parle de l'autre.
Alors Jules, le cadet, va mourir le plus jeune. Après la catastrophe, Jules, il utilisait davantage le « je ». Edmond, le survivant, utilise plus que jamais le « nous ». Et il va consacrer un roman aux frères Zemgano, qui sont des personnages fictifs bien sûr, mais qui sont de grands acrobates, dont Edmond admire la précision dans leur figure commune.
Oh, cette poursuite aérienne!
Tant mieux si notre petite pantomime acrobatique vous a plu. Vous savez, tout le mérite en vient à mon grand frère Gianni. Hein. C'est lui qui invente les tours. Oh,
toutes les excentricités, tout le rêve, toute la féerie, toute la poésie, comme vous dites, qui parle aux acrobaties, c'est le frérot qui les invente.
Oh, peu de choses, vous savez.
Comme c'est émouvant, votre fraternelle collaboration.
Ah, ça, pour s'entendre, on s'entend bien, tous les deux.
Oh, j'ai eu un frère, moi aussi. Un frère que j'ai chéri de toute mon âme. Jusqu'à sa mort, nous avons travaillé ensemble, sans jamais connaître un instant de mésentente. Nous nous aimions comme je devine que vous vous aimez. Mmh. Et nous avions mis en commun nos cerveaux, comme vous mettez en commun vos muscles, votre fraternité, votre simplicité. Je me sens bien auprès de vous. Et peut-être plus tard, écrirai-je un livre sur vous.
Un livre ?
Oui. Un livre qui serait aussi un sourire adressé à mon frère. Cela vous ennuierait-il de me raconter votre vie ?
Mais non. Jean-Charles Thiébaut jouait Edmond de Goncourt avec la compagnie Art et Travail. C'était une production de 1961 de France 2 régionale. En fait, d'activité physique, Jean-Louis Cabanès, il chinait plutôt. Hein, ils allaient partout où oui, on vendait des autographes, des objets.
On peut dire que Edmond a commencé à acquérir des objets de collection dès l'âge de 16 ans. Et donc, ça a été une activité ensuite permanente. Et on peut dire presque qu'elle explique en partie le reste éthique, car chiner, c'est trouver. Et les Goncourt essaient d'écrire en faisant reluire des trouvailles dans leur style, en ayant un style parfois décoratif, un style qui attire l'attention sur le langage pris par lui-même.
C'est-à-dire des jolités, ils allaient mettre un double L. C'est un mot qu'ils ont inventé.
C'est un mot qu'ils ont inventé.
Et qui sont tirés du dessus du panier de la curiosité.
Qui sont tirés du dessus du panier de la curiosité, effectivement. Donc chercher chez les antiquaires, chercher chez les marchands de curiosité japonaise. Donc il y a vraiment un désir d'engranger des collections et de meubler sa maison de telle sorte qu'elle devienne un musée personnel.
Alors c'est le cas de l'appartement commun de la place Saint-Georges au début, et puis c'est le cas d'une maison qu'ils peuvent acheter juste avant la mort de Jules, qui existe encore, boulevard de Montmorency. C'est une maison d'artiste.
C'est une maison d'artiste. Et c'est ainsi d'ailleurs que Edmond en fait d'une certaine manière le catalogue. C'est une maison d'artiste dans laquelle on pourrait dire que presque tout est enveloppé. C'est un boîtier, un écrin, où les choses sont disposées de telle sorte qu'elles reluisent. Donc tout est censé être œuvre d'art. La vie doit être œuvre d'art, la maison doit être œuvre d'art, et l'œuvre elle-même, évidemment, est œuvre d'art. Tout est placé sous le signe d'une sorte d'artisticité rêvée.
Oui, enfin, il y a un jardin autour, et il paraît qu'ils allaient pisser toujours sur le même chou. Parce qu'on peut être dans la jolité, on est aussi dans la réalité.
Ils ont parfois du goût pour les crudités, et jusqu'à dire que, ma foi, leur maîtresse, puisqu'ils la partagent, fait comme le public... Elle aime bien leur collaboration.
Alors tout ça, il se raconte ça dans les dîners entre hommes qu'il fréquente, le fameux dîner Magny, où seul George Sand était une femme admise, hein, et oui, encore, oui. Du bout des doigts. Il le raconte moins dans les salons de prédilection qu'ils peuvent fréquenter, et notamment dans celui de la princesse Mathilde, qui est soit à Paris, soit à Saint-Gratien, tout près du lac d'Enghien. Elle le tient, ce salon, flanqué en général d'accompagnants au long cours, et le premier d'entre eux, c'est l'énergique Nieuwerken.
Le salon d'une altesse impériale, cela vaut bien que l'on s'y arrête quelques instants. Certes, c'est sous le Second Empire qu'il a brillé, ce salon, de son plus vif éclat. Son salon, dis-je, n'avait point de couleur politique. Mais lorsqu'après la violente secousse de 1848, son cousin Louis-Napoléon sortit peu à peu de l'ombre et s'empara des leviers de commande, Mathilde sentit bouillir en elle le sang des Bonaparte et elle vit tout naturellement se grouper autour d'elle tous ceux qui avaient souhaité ou accepté le nouveau régime. Nieuwerken, nommé par l'empereur surintendant des musées nationaux, fut dorénavant, au vu et au su de tous, quelque chose comme son prince consort. Et il lui amena, parmi les écrivains qui formaient le groupe le plus compact, Nisard, Feuillet, Dumas-Père, les Goncourt, Sainte-Beuve, Flaubert et bien d'autres. Tous se trouvaient à l'aise chez cette femme à l'esprit large et au grand cœur et se disputaient son amitié.
Ah, quel malheur pour une princesse d'aimer au-dessous de son rang un homme sans délicatesse qui se tient mal le plus souvent et devient trompette en éternuant et devient trompette en éternuant. Ce n'est pas plus tard qu'à l'instant même, il m'a fourré la main au cœur. Bien que nous soyons en carême, rien n'est sacré, rien n'est sacré pour un sculpteur.
qui est aussi le surintendant des beaux-arts de Napoléon III, Nieuwerkerk, chanté par Colette Renard. Toujours le mélange de la jolité, de la bibeloterie et puis de la rude réalité. D'ailleurs, la princesse Mathilde, elle est peinte sous de multiples facettes, Jean-Louis Cabanès.
Oui, il y a un portrait qu'on pourrait dire kaléidoscopique de la princesse Mathilde, parce que pour les Goncourt, les êtres ne sont pas un, ils sont composés d'apparences, il est difficile d'en faire la synthèse. Donc, cette princesse Mathilde, elle leur apparaît parfois aimante, parfois réfrigérante, parfois bête comme une oie, parfois intelligente, et ils en font un portrait que je serais tenté de dire proustien, dans la mesure où il en déplie successivement des apparences.
Et quand même, ce n'est qu'une femme du 19e siècle, même s'il est au-dessus du panier des curiosités du 19e siècle, les femmes comparables du 18e étaient autrement intéressantes.
Oui, parce que les Goncourt ont toujours rêvé une féminité, si on peut dire, absente. Présente, je vous fuis, absente, je vous trouve, pour parodier Racine. Donc la véritable femme s'incarne dans la femme du 18e siècle, parce qu'elle est parfaitement mondaine, parfaitement élégante, et j'oserais dire parfaitement fantasmatique.
Et quand Jules meurt, quelques années plus tard, Edmond va acheter le lit de la princesse de Lamballe.
Oui, en effet.
Et il a couché donc dans le lit de la princesse de Lamballe, la belle absente décapitée. On a évoqué plus d'une fois la disparition de Jules. Elle a lieu en 1870 dans Les Frères Zemganov. Le livre et la pièce qui suivront, on voit l'un des deux frères brisé par une chute. Il a les jambes cassées. Bon, ils vont se survivre l'un et l'autre. Comment va faire Edmond au moment de la mort de Jules? Il raconte ça dans le journal qu'il reprend en 1870, dans des pages qui sont vraiment bouleversantes.
Oui, ce sont des pages magnifiques, très sobres, très émues, sans vaine décoration. Et ce qui frappe Edmond, c'est que son frère devient étranger à lui-même, qui a comme une sorte de masque mortuaire, alors qu'il est encore évidemment vivant. Et il meurt de syphilis aphasique.
Ben, c'est pas dit ça dans le journal qu'il meurt de syphilis.
Sûr,
ça, ce sont les annotations.
Il est censé être mort à la peine du style.
La peine du style, oui. De la difficulté d'écrire.
Oui.
Bon, je vous ai interrompu.
Oui. Non, mais je vous en prie. Donc, en fait, ce qui est frappant dans cette mort, c'est que le frère veut qu'on lui lise les morts d'outre-tombe, comme s'il allait encore absorber de la littérature pour une dernière fois, la littérature qu'il aime, bien entendu. Et en même temps, alors qu'il ne peut plus parler, il y a juste qu'un mot qu'il réussit à prononcer, c'est Maya, c'est-à-dire le nom de leur maîtresse commune, mot qui doit être terrible pour Edmond, qui d'une certaine manière n'est pas choisi.
Dites, la tristesse va être redoublée la même année 1970, puisque à la détresse de Jules s'ajoute la tristesse de la défaite. Mais Edmond va repartir, flâner dans Paris en tous sens pour regarder ce qui se passe pendant le siège, que la postérité ne s'avise pas d'en compter aux générations futures sur l'héroïsme des Parisiens de l'hiver de 1970. Leur héroïsme aura consisté à manger du rosbif de cheval à la place du bœuf.
Non, jamais sur cette terre on ne vit en vérité pareille calamité, ni plus affreuse misère que celle que l'on subit sous le siège de Paris. L'aspect de toutes nos rues est lugubre, car hélas, on a supprimé le gaz même avant une heure indue, et les magasins le soir font vraiment du mal à voir, et nos braves ménagères attendent en pâte aux gens souvent 3 heures durant pour obtenir d'ordinaire un pot-au-feu de cheval, ce brave et noble animal.
Est-il vrai que le boucher du boulevard Haussmann a payé 27 000 francs Castor et Pollux, les deux éléphants du Jardin des Plantes?
Vous aimez la viande d'éléphant? Eh bien, il faudra vous presser pour en trouver encore. Nous souffrons assez de la disette. Si nous n'avions plus ni café, ni riz, par exemple, je me demande ce que nous deviendrions. Ah, j'ai quand même vu hier, tenez, à la Villette, une vieille rose de fiacre s'abattre dans la rue et un boucher se précipiter couteau en main pour la dépecer.
Mais puisque vous savez tout, monsieur, quel prix vend-on la viande d'éléphant à la boucherie anglaise du boulevard Haussmann?
30 francs la livre pour la trompe, monsieur. C'est ce qu'il y a de meilleur. Et les autres morceaux, 20 francs. Mais le kangourou est moins cher. 18 francs la livre seulement. Et le porc-épic, 10 francs. Nous sommes dans la pampa, mais on n'a pas encore mangé les singes.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jean-Louis Cabanès, éditeur du journal des frères Goncourt, 4 volumes déjà parus avec une équipe chez Champion, le bien nommé, nous parlons aujourd'hui des frères Goncourt, au testament desquels on doit l'académie du même nom. Alors on a entendu Mouloudji chanter Le Siège, René Héron de Villefosse en faire un récit classique. Dans le journal, on voit apparaître tout cela. Edmond va en tous sens dans Paris et on attend de savoir ce qu'il pense de la Commune de Paris qui va suivre le siège.
Eh bien, il est positivement horrifié et en même temps, comme il se promène partout dans Paris, il note ce qu'il voit sous des angles divers. On peut dire qu'il y a une sorte de discours esthétique où l'on voit tout d'un coup des tableaux parisiens nimbés de couleurs.
Par exemple?
Par exemple, mais ça c'est avant la Commune, lorsqu'on aperçoit des soldats avec leur habit rouge, il y a tout un papillotage qui fascine Edmond. Mais même encore au moment de la Commune, lorsqu'il voit les ruines de l'hôtel de ville, il trouve ces ruines belles alors que nous sommes dans l'horreur de l'incendie de l'hôtel de ville. Donc cette espèce d'esthétisme qui peut être glaçant quand même prévaut à certains moments. À d'autres moments, c'est un regard clinique, un témoin extrêmement aigu qui enregistre, qui, je pourrais dire presque, photographie ce qu'il voit.
Parce que c'est un œil intense.
Ah, c'est un œil intense, c'est un œil aigu. Son frère était myope, lui je ne sais s'il l'est, mais en tout cas il veut s'approcher au plus près, il veut regarder, il veut voir toujours ce qu'il peut voir.
Mais en même temps, on lit, vous allez nous expliquer bien sûr qu'il est réactionnaire, des choses comme ceci. La force de la Commune vient de la conscience qu'a le peuple d'avoir été incomplètement et incapablement défendu par le gouvernement de la Défense nationale, de la croyance, en un mot, que c'est un gouvernement qui a des couilles. Parce que le style est artiste, et mais je reviens sur mon leitmotiv, réaliste.
Oui, bien entendu. On pourrait dire qu'il y a une force d'expression qui est absolument recherchée par les Goncourt. Mais il y a une sorte de bivalence. C'est que d'un côté, lorsque les Versaillais entrent dans Paris et gagnent, on voit une intense satisfaction chez Edmond. Je note le 31 mai qu'il déclare « c'est bon ». La saignée est une saignée à blanc. 20 ans de repos que l'ancienne société a devant elle.
Oui, parce que la partie batailleuse du peuple,
a disparu.
Et c'est bivalent, dites-vous, parce que...
C'est bivalent parce que, de l'autre côté, cette belle énergie du peuple, il l'admire. De la même manière que le seul trait d'héroïsme qu'il note, c'est un trait de communard qui se bat jusqu'à la mort, effectivement, avec une énergie remarquable.
Et il préfère peut-être Jules Vallès, qui au moins, lui, se couche à poil dans son lit, à tiers, qui s'enveloppe
absolument,
avec un bonnet de nuit.
Ils vont même jusqu'à dire à un moment donné qu'ils aiment Garibaldi. Ils aiment. En tout cas, ils ont de la sympathie pour Garibaldi pour une raison très simple, c'est qu'il est vaincu.
Ouais.
Donc tout ce qui échoue,
oui,
leur
mérite
sympathie.
Un regard esthétique. Dites-moi sur le peuple, il y a ceci quand même qui est incroyable. Tout ce qui diminue le nombre des illettrés va contre le principe d'un bon gouvernement.
Parce qu'il s'agit d'aller jusqu'au bout des paradoxes réactionnaires. Et donc, il y a un plaisir à certains moments de choquer. de jouer, je dirais, le vieux Crouton.
Parce que c'est destiné à une publication ultérieure.
C'est destiné à une publication ultérieure. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a un refus chez les deux frères, que l'on trouverait aussi chez Flaubert, de tout ce qui est philanthropie, de tout ce qui est bien-pensance.
Ah oui, alors celui qui s'intéresse aux autres alors qu'il ne les connaît pas, ça ne peut être qu'un tartuffe.
Absolument.
Absolument.
Donc à ce moment-là, pour le situer politiquement, peut-être ceci, on pourrait dire que, mais Dickens le montre très bien, qu'il y a toujours dans le système libéral la nécessité de faire ou de produire une action morale spectaculaire. Donc on pourrait dire que le bien faire, le philanthrope, est l'alibi moral du libéralisme. Et ça, je pense que les frères Goncourt le comprennent très bien. Pour parodier Jean Bory...
Jean Bory, c'est l'auteur d'un livre assez étonnant qui s'appelle Le célibataire français.
Voilà. On pourrait dire à propos d'Edmond que les vieux croutons ne sont pas toujours cons.
Très bien, cette citation sera notée pieusement. Vous avez parlé de Flaubert, il faudrait parler de Théophile Gautier, il faudrait parler plus en avant de Saint-Simon. Vous avez cité Chateaubriand... Ils sont proches de Balzac, ils connaissent Zola, qu'ils accusent de beaucoup d'emprunt. Mais ça, ce sont les influences un peu attendues, mais il y a des connexions plus inattendues chez Goncourt.
Alors, on peut dire qu'ils aiment Saint-Simon, on peut dire qu'ils aiment, parfois même, on ne s'y attendrait pas, un journal révolutionnaire comme Le Père Duchesne.
Oui, parce que ça a des couilles.
Absolument, absolument. Mmh. Alors, cela va, je dirais, du côté de tous les originaux. Du côté de Barbet, du côté de Veuillot, s'il le faut, du côté de Vallès, s'il le faut encore. Et puis, il y a cette grande tradition de mémorialistes qui les conduit de Chateaubriand jusqu'à eux-mêmes, évidemment, en passant par les mémoires d'une vie de Sand qu'ils aiment. C'est la seule chose qu'ils aiment dans l'œuvre de Sand. Et alors ils ont quand même un successeur qui les parodie, qui se moque d'eux, mais qui les a quand même appréciés. Après tout, on ne parodie que ce qui importe parfois à vous-même, c'est Proust.
Alors Marcel Proust, le premier volume du journal, Filtré, paraît en 1887, il se vend d'ailleurs assez modestement, mais il va provoquer un trouble chez Proust. Voici une adaptation cinématographique de Raoul Ruiz.
La lecture du journal inédit des Goncourt me produisit un curieux sentiment de trouble. Goncourt y racontait un dîner qu'est Conti, où était l'hôtel des Verdurin.
J'imagine quel plaisir ce doit être pour vous que de manger dans une telle collection d'assiettes.
Lui ? On voit bien que vous ne le connaissez pas. Mon mari est un maniaque, totalement indifférent à toutes ces jolités. Je crois entre nous qu'il prépare une bonne bouteille de cidre dans la fraîcheur d'une ferme normande. Vous connaissez la Normandie ?
De la Normandie, je connais surtout les paysages d'Elstir, si délicatement pastellisés.
Elstir ? Mais c'est moi qui lui ai fait connaître tout cela. Les fleurs, il n'en avait jamais vu, il ne savait pas reconnaître un Altea d'une passe rose. Je lui apprenais à disposer ses fleurs. Il n'a jamais su faire un bouquet. Combien de fois lui ai-je dit, mais non, mon petit Estir, non, ne peignez pas cela, cela n'en vaut pas la peine. Peignez ceci.
Vous avez remarqué ce magnifique collier de perles au cou de Madame Verdurin?
Admirable, en effet.
Des perles noires, qui étaient blanches à l'origine.
Vraiment?
Je parle des perles de la maîtresse de maison, et Monsieur de Goncourt ne me croit pas.
Il a tort.
Et c'est dans un incendie qu'elles ont noirci.
J'avais à l'époque un coffret de bronze dans lequel je rangeais certains bijoux. Et quand notre appartement a brûlé, on a retrouvé le coffret et les perles qui étaient telles que vous les voyez aujourd'hui. Ah ! Est-ce que ce n'est pas de la magie noire ?
J'éprouvais un vague trouble. Tout de même, ces êtres-là, je les avais connus dans la vie quotidienne. J'avais souvent dîné avec eux. C'étaient les Verdurin, c'étaient les Cottard. Je me rappelais les vulgarités sans nombre dont chacun était composé.
Tout de même, dit le narrateur, prix Goncourt 1919. Bah oui, j'étais avec Madame Verdurin à un dîner en compagnie d'Edmond Goncourt. Madame Verdurin, ici dans le film de Ruiz, c'est Marie-France Pizier.
Alors, Proust a réussi à faire un pastiche admirable qu'il a intégré donc dans le temps retrouvé. Et il a presque donné à Edmond un rôle romanesque. Mais il s'agit évidemment pour lui de se dissocier aussi de Goncourt, de le faire apparaître comme s'occupant uniquement de regarder des surfaces, d'être un écrivain d'observation superficielle, et donc de le rejeter dans cette parodie.
Alors qu'est-ce que c'est l'indiscrétion des bichons, parce qu'on les appelle les bichons, l'indiscrétion avec un grand I, une indiscrétion qui n'est pas de parodie, qui n'est pas seulement de recherche des petits secrets sexuels?
Alors l'indiscrétion des bichons consiste à pénétrer au plus intime de la société, de ses secrets, de ses échanges, d'essayer de radiographier quels sont les rites des sociabilités humaines, des sociabilités littéraires. Il s'agit de scruter autant que possible l'univers social des hommes de lettres. Mais je pense que...
C'est-à-dire qu'il s'agit d'aller au creux des pensées aussi ?
Pas nécessairement au creux des pensées, mais au creux des comportements. Comment se comporte-t-on ? Où habite-t-on quand on est journaliste? Que fait-on?
Il n'aime pas les appartements qui sont moches. Peut-être ceux des journalistes le sont-ils souvent.
Des journalistes,
oui.
Mais il y a une sorte de hiérarchisation qui se fait.
Par exemple, il regarde une bibliothèque, il va dire « Oh, les livres sont pas assez nombreux pour être dans un appartement de savant, les livres sont trop nombreux pour être dans un appartement de romancier, ils sont neufs, donc c'est un appartement de journaliste. »
Absolument, tout à fait ça. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il s'agit, à partir de la décoration, de pénétrer vers le sujet tel qu'il est et tel qu'il se comporte dans la vie. Mais le secret, à mon avis, c'est encore autre chose. Je crois qu'il ne faut pas rejeter quand même la question sexuelle. Parce que si pour Flaubert, l'organe génital est le fond des 30 tendresses humaines, on pourrait dire que les Goncourt adhèrent à cette chose, à cette position-là.
La position du frottement, quoi, voilà. Sans embêtement.
Mais on faut encore aller plus loin. Je crois que ce que les Goncourt découvrent en aspirant à pénétrer l'intime, à aller au plus profond de l'intime, c'est que la mort travaille la vie. Et donc, il décèle, en quelque sorte, un instinct de mort qui travaille au sein du vivant. Et on lit dans Germanie Laster 2, lorsqu'elle se sent appelée par le suicide, des phrases magnifiques sous le bruit doux de la mort, qui semble donc l'appeler, et qui retentit comme des grandes eaux qui tombent dans du vide. À strictement parler, cette phrase ne veut rien dire. Et pourtant, elle suggère qu'il y a dans la vie, mêlé à la vie, quelque chose qui est comme une mort dans la vie, un instinct de mort, une pulsion de mort. Et c'est cela que les Goncourt essaient de pénétrer au plus profond lorsqu'ils scrutent l'intime et pas simplement le misérable tas de petits secrets qu'il y a dans toute vie humaine.
Merci à vous, Jean-Louis Cabanès. Votre édition en cours du journal des Goncourt chez Champion, 4 volumes. Les 3 volumes sont disponibles dans l'édition Ricat du milieu des années 50 chez Bouquin Lafond. Et puis notre site donnera une bibliographie complémentaire. On retrouvera l'adresse de la Société des Amis des Frères Goncourt. L'émission a été préparée par Marion Philippe-Ilinka Negulesco et Franck Olivard, à la réalisation Stéphane Ronxin et à la technique Dimitri Gronov. Très vite, cher Mathieu Vidard, de quoi nous parlez-vous ?
Stress et sommeil, je ne peux pas faire plus court, Jean.
Ah bah bravo. À tout à l'heure.
Merci.